Chapitre 51. En ce qui concerne la fête des 19 jours, elle réjouit l'esprit et le cœur. Si elle est célébrée comme il se doit, les amis, une fois tous les 19 jours, se sentiront spirituellement restaurés et doués d'un pouvoir qui n'est pas de ce monde. Chapitre 52. Ô serviteur du seul vrai Dieu, loué soit le Seigneur. Les bien-aimés de Dieu se trouvent en chaque pays, et ils sont tous, sans exception, à l'ombre de l'arbre de vie et sous la protection de sa providence. Sa sollicitude et sa tendre bonté sont semblables à la houle et aux éternelles vagues de la mer, et de son royaume éternel sont dispensées sans trêve ses bénédictions. Nous devrions prier pour que les bénédictions qu'il nous accorde soient toujours plus abondantes, et pour que nous nous attachions aux moyens susceptibles d'assurer une plus grande effusion de sa grâce et une mesure plus débordante de son assistance divine. L'un de ces moyens les plus efficaces est l'esprit de véritable solidarité et d'affectueuse communion entre les amis. Rappelez-vous ce dicton. De tous les pèlerinages, le plus grand consiste à soulager le cœur meurtri par l'affliction. Chapitre 53. En vérité, Abdu'l-Bahâ inhale le parfum de l'amour de Dieu qui se dégage de tout lieu de réunion où est proférée la parole de Dieu, où sont exposées les preuves et les arguments dont les clartés se répandent à travers le monde, et où sont relatées les tribulations d'Abdu'l-Bahâ aux mains de ceux qui ont violé l'alliance de Dieu. Ô servante du Seigneur, ne dis pas un mot sur la politique. Ta mission concerne la vie de l'âme, car celle-ci, en vérité, conduit à la joie de l'homme dans le monde divin. Sauf pour en dire du bien, ne fais aucune mention des rois de la terre, ni de leur gouvernement ici-bas. Limite plutôt ton discours à répandre les heureuses nouvelles du royaume de Dieu, à démontrer l'influence de la parole de Dieu et le caractère sacré de sa cause. Parle de la joie qui demeure et des délectations spirituelles, des qualités divines et de la manière dont s'est levé, au-dessus des horizons terrestres, le soleil de vérité. Parle du souffle de l'esprit de vie qui pénètre dans le corps du monde. Chapitre 54. Vous m'avez écrit au sujet des réunions que tiennent les amis, en soulignant à quel point elles sont imprégnées de paix et de joie. Bien sûr qu'il en est ainsi, car partout où sont rassemblées des intelligences spirituelles, là règne Baha'u'llah dans toute sa beauté. Aussi est-il certain que de telles réunions produiront un bonheur et une paix sans limite. Aujourd'hui, il appartient à chacun et à tous de s'abstenir de mentionner toute autre chose, et il convient de faire peu de cas du reste. Que leur manière de parler, des amis de Dieu, que leur état d'âme intérieur se résume ainsi. Fais que tous les mots de mes prières et de ma louange se limitent à l'expression d'un seul refrain. Fais que ma vie entière ne soit que servitude envers toi. Autrement dit, qu'ils consacrent toutes leurs pensées, toutes leurs paroles à enseigner la cause de Dieu et à propager la foi de Dieu, à inciter tous leurs semblables à se distinguer par l'acquisition des qualités divines, à aimer l'humanité, à être pur et saint en toutes choses et sans tache dans leur vie publique et privée, intègre et détaché, fervent et plein d'ardeur. Ils renonceront à tout sauf au souvenir de Dieu. Ils n'apprécieront rien hormis la louange de Dieu. Aujourd'hui, le monde sautera de joie et dansera au son de cette mélodie entonnée par l'Assemblée céleste. Gloire à mon Seigneur, le très glorieux. Mais sachez bien ceci, à moins d'entendre ce chant de Dieu, nul autre chant ne pourra émouvoir le monde. Et à moins de percevoir les trilles du rossignol de vérité s'envoler du jardin de Dieu, nulle mélodie n'attirera le cœur. D'où vient ce chanteur qui prononce le nom du bien-aimé? Chapitre 55. Il est bon que les amis organisent des réunions. Il est bon que les amis organisent des réunions au cours desquelles ils glorifieront Dieu, fixeront leur cœur sur lui et réciteront les versets sacrés révélés par la beauté bénie. Que mon âme soit donnée en rançon pour ses serviteurs aimants. De telles assemblées reflèteront l'éclat des rayons de l'horizon suprême et des feux du royaume très glorieux. Car elles ne sont rien d'autre que les Mashrikulaskar, nota Mashrikulaskar, maison d'adoration. Les aurores du souvenir de Dieu, qui, sous la direction de la plume très exaltée, seront appelées à s'établir dans chaque hameau et dans chaque cité. Ces réunions spirituelles doivent avoir un caractère de pureté et de consécration extrême, en sorte que, du site même où elles se déroulent, de leur emplacement sur la terre et de l'atmosphère qui les entoure, s'exhalent les brises odorantes de l'Esprit-Saint. Chapitre 56. Toutes les fois qu'un groupe de personnes s'assembleront dans un lieu de réunion, qu'elles glorifieront Dieu et qu'elles s'entretiendront des mystères divins, alors, sans aucun doute, les souffles légers du Saint-Esprit leur parviendront, et chacune d'entre elles recevra une part de ses bienfaits. Chapitre 57. Nous apprenons que tu as l'intention d'embellir ta demeure, de temps à autre, en réunissant des amis bahaïs dont quelques-uns s'engageront à louer le Seigneur très glorieux. Si tu arrives à réaliser ton projet, sache que cette maison terrestre deviendra une demeure céleste, et cet édifice de pierre, un synode de l'Esprit. Chapitre 58. Tu m'as interrogé au sujet des lieux d'adoration et de leur raison d'être. La sagesse qui préside à la construction de tels édifices est la suivante. À une heure convenue, les gens sauraient qu'il est temps de se réunir. Ils se rassembleraient et, formant une union harmonieuse entre eux, se consacreraient à la prière. L'unité et l'affection en résulteront. Elles se développeront et s'épanouiront dans le cœur humain. Chapitre 59. Abdu'l-Bahâ a longtemps nourri l'espoir qu'une maison d'adoration à Mashrikulaskar serait édifiée dans cette région. Dieu en soit loué. Grâce aux efforts résolus et constants des amis, la chose s'est réalisée et l'heureuse nouvelle a été annoncée récemment. Cet accomplissement est, au seuil de Dieu, hautement acceptable. Car le Mashrikulaskar inspire les serviteurs aimants de Dieu, réjouit leur cœur et les encourage à se montrer fermes et constants. Il s'agit là d'un projet de la plus haute importance. Si l'édification en un lieu public de la maison d'adoration suscitait de l'hostilité chez les malveillants, alors la réunion devrait avoir lieu en quelque endroit secret. Jusque dans chaque hameau, il faut réserver un lieu pour le Mashrikulaskar, même s'il doit être souterrain. Maintenant, Dieu soit loué, vous avez réussi à réaliser ce projet. Au lever du jour, mettez-vous en prière et commémorez le souvenir du Seigneur. Levez-vous pour le louer et pour le glorifier. Soyez bénis et que la joie vous habite. Ô vous les justes, car vous avez fixé le point d'aurore des louanges adressées à Dieu. En vérité, je prie le Seigneur de faire de vous les étendards de salut et des bannières de rédemption, flottant au vent au-dessus des vallées et des collines. Chapitre 60. Bien que le Mashrikulaskar soit, d'après son apparence extérieure, une structure matérielle, il exerce cependant un effet d'ordre spirituel. Il forge entre les cœurs des liens d'unité. C'est un centre communautaire destiné aux âmes humaines. Chaque ville dans laquelle, au temps de la manifestation, fut édifié un temple, a fait naître la sécurité, la constance et la paix. Car de tels édifices ont été voués à la perpétuelle glorification de Dieu. Et le cœur humain ne saurait trouver de repos en dehors de la souvenance de Dieu. Par le Dieu de miséricorde, l'édifice de la maison d'adoration exerce une puissante influence sur toutes les phases de la vie. En Orient, l'expérience a clairement montré qu'il s'agissait là d'un fait bien établi. Même si dans quelques petits villages, une maison était désignée pour faire fonction de Mashrikul Adkar, son existence avait une portée significative. Quel pourrait être alors l'impact produit par un temple spécialement édifié dans ce but? Chapitre 61. Ô Seigneur, ô toi qui bénis tous ceux qui se montrent fermes dans l'Alliance en leur accordant, par l'amour pour la lumière du monde, de dépenser ce qu'ils ont pour l'offrir au Mashrikul Adkar, aurore de ton rayonnement et proclamateur de tes preuves. Aide ces âmes justes, droites et pieuses, en ce monde et dans le monde à venir, à se rapprocher toujours davantage de ton seuil sacré, et illumine leur visage de tes éblouissantes splendeurs. En vérité, tu es le généreux, l'éternel dispensateur. Chapitre 62. Ô ma fille bien-aimée du royaume, la lettre que tu avais écrite au docteur Eslemon m'a été transmise par lui au pays du désir, nota, Terre Sainte. Je l'ai lue jusqu'au bout avec la plus grande attention. D'une part, j'ai été profondément touché de savoir que tu avais coupé tes belles tresses à l'aide des ciseaux du détachement de ce monde et du renoncement à soi-même sur le chemin du royaume de Dieu. Et d'autre part, j'ai été très heureux d'apprendre que cette fille tendrement aimée avait poussé l'abnégation au point d'offrir une partie si précieuse de son corps dans la voie de la cause de Dieu. Si tu m'avais consulté, je n'aurais jamais consenti à ce que tu coupes une seule de tes jolies boucles ondulées. Non, vraiment, j'aurais moi-même contribué en ton nom au Mashrikul Adkar. Ton acte, toutefois, constitue un éloquent témoignage de ton noble esprit d'abnégation. Tu as, en vérité, fait le sacrifice de ta vie, et féconds seront les résultats que tu en obtiendras sur le plan spirituel. Garde ta confiance, car jour après jour, tu progresseras, et ta fermeté ainsi que ta constance s'accroîtront toujours plus. Les bienfaisances de Baha'u'llah t'environneront de toutes parts, et les joyeuses nouvelles émanant des sphères célestes te seront communiquées à maintes reprises. Et bien que ce soit tes propres cheveux que tu as sacrifiés, néanmoins tu recevras une effusion de l'esprit. Et bien que ce soit cette partie périssable de ton corps que tu as offerte dans le sentier de Dieu, néanmoins tu découvriras le don divin, tu contempleras la beauté céleste, tu obtiendras la gloire impérissable et parviendra à la vie éternelle. Chapitre 63. Ô vous, âme bénie, nota, Bahaï de Najaf Abad. La lettre que vous avez écrite à Rahmatullah m'a été lue. Elle m'apportait des nouvelles nombreuses et réjouissantes, à savoir que grâce au pouvoir de la foi et de la fermeté dans l'Alliance, de nombreuses réunions ont eu lieu, et que, partout, les bien-aimés du Seigneur sont en mouvement et actifs. L'ardent désir d'Abdu'l-Baha a toujours été que la terre de ce lieu sanctifié, qui, au premier jour de la cause, a été rafraîchie par les ondées printanières de la grâce et a reverdi, puisse fleurir et s'épanouir au point de remplir de joie tous les cœurs. Loué soit le Seigneur. La cause de Dieu a été proclamée et promue à travers l'Orient et l'Occident, de telle sorte qu'aucun esprit n'avait jamais imaginé la rapidité avec laquelle les douces fragrances du Seigneur parfumeraient toutes les régions. En réalité, ce résultat est l'œuvre de la parfaite munificence de la beauté bénie à jamais, dont la grâce et le pouvoir triomphant sont encore et toujours dispensés et reçus en abondance. La construction, au cœur même du continent américain, du Mashrikul Adkar, et les contributions de nombreuses âmes des régions avoisinantes à l'érection de ce temple sacré, c'est bien là l'un des prodigieux événements qui se soit produit récemment. Parmi les bienfaiteurs se trouve une dame fort estimée de la ville de Manchester, qui a été incitée à offrir sa part. Comme elle n'avait ni bien ni richesse terrestre, elle a coupé de sa propre main les longues, fines et précieuses tresses qui ornaient si gracieusement sa tête et les a mises en vente afin que le montant recueilli puisse servir à promouvoir la cause du Mashrikul Adkar. Considérez bien ceci. Même si aux yeux d'une femme, il n'y a rien de plus précieux qu'une chevelure longue et bouclée, néanmoins, cette dame très estimée a fait preuve d'un rare et bel esprit d'abnégation. Et bien que ce geste fût spontané et qu'Abdul-Baha n'eût pas consenti à un tel acte, pourtant, il révèle un tel esprit de dévouement, noble et élevé, qu'il en a été profondément touché. Aussi précieux que soient les cheveux au regard des femmes occidentales, que dis-je, plus précieux que la vie elle-même, cette dame de Manchester les offrit en sacrifice pour la cause du Mashriqu al-Azkar. On rapporte qu'à l'époque de l'apôtre de Dieu, nota, apôtre de Dieu désigne Muhammad, celui-ci exprima le désir qu'une armée progressât dans une direction déterminée, et les fidèles furent autorisés à recueillir des contributions en faveur de la guerre sainte. Parmi eux se trouvait un homme qui offrit 1 000 000 de chameaux, chacun d'eux chargé de grains. Un autre donna la moitié de ses biens, et un autre encore offrit tout ce qu'il possédait. Mais une femme très âgée, dont l'unique bien consistait en une poignée de dattes, s'approcha de Mohammed et déposa à ses pieds son humble contribution. Sur ces entrefaites, le prophète de Dieu, que ma vie lui soit offerte en sacrifice, ordonna que cette poignée de dattes fût placée au-dessus de tous les autres dons réunis, affirmant ainsi le mérite et la supériorité de cette contribution sur tout le reste. Cela fut fait ainsi parce que cette femme âgée ne possédait rien d'autre au monde que ces quelques dattes. Et ainsi en est-il de cette dame estimée. Elle n'avait rien d'autre à offrir que ses précieuses boucles, et elle les sacrifia avec magnanimité pour la cause du Mashriqu al-Azkar. Réfléchissez et songez à quel degré de puissance et d'autorité est parvenue la cause de Dieu. Une femme de l'Occident a donné sa chevelure pour la gloire du Mashriqu al-Azkar. Pour mieux dire, ceci n'est qu'une leçon donnée à ceux qui entendent. En conclusion, je dirais que les bien-aimés de Najaf Abad m'ont apporté de grandes satisfactions. Car, dès les premières lueurs de la cause jusqu'à ce jour, chacun d'eux a fait preuve en toutes circonstances d'un grand esprit d'abnégation. Avec une entière sincérité, cette âme immaculée que fut Zainul Muharrabin n'a cessé de prier toute sa vie durant pour les croyants de Najaf Abad et implora pour eux la grâce de Dieu et ses divines confirmations. Loué soit le Seigneur, les prières de cette âme bienveillante ont été exaucées, car leurs effets sont partout manifestes. Chapitre 64. Le Mashriqu al-Azkar est l'une des institutions les plus vitales du monde, et il possède de nombreuses branches annexes. Tout en étant une maison d'adoration, il est également rattaché à un hôpital, à un dispensaire, à une maison d'accueil pour les voyageurs, à une école pour les orphelins et à un établissement d'études universitaires. Chaque Mashriqu al-Azkar est relié à ces 5 structures. Mon espoir est que le Mashriqu al-Azkar sera maintenant fondé en Amérique et que peu à peu l'hôpital, l'école, l'université, le dispensaire et la maison d'accueil seront créés ensuite, et que toutes ces institutions fonctionneront dans les meilleures conditions d'organisation et d'efficacité. Portez ces questions à la connaissance des bien-aimés du Seigneur, afin qu'ils comprennent à quel point l'importance de ce point d'aurore de la commémoration de Dieu est grande. Le temple n'est pas seulement un lieu d'adoration, il est plutôt, à tous égards, un ensemble complet. Ô toi, chère servante du Seigneur, si seulement tu pouvais connaître quelle haute station est destinée aux âmes qui sont détachées du monde, qui se sentent fortement attirées vers la foi dont elles expliquent les enseignements à l'ombre protectrice de Baha'u'llah. À la pensée de suivre un tel chemin et de voyager dans la direction du royaume, comme tu te réjouirais. Comme tu aimerais étendre tes ailes et t'élever dans le ciel avec des sentiments d'exultation et de ravissement. Quant à la terminologie dont j'ai fait usage dans ma lettre pour t'engager à te consacrer au service de la cause de Dieu, le sens en est le suivant. Limite tes pensées à l'enseignement de la foi. Jour et nuit, agis en accord avec les enseignements, les conseils et exhortation de Baha'u'llah. Cela n'exclut pas le mariage. Tu peux te choisir un mari et en même temps servir la cause de Dieu. L'un n'exclut pas l'autre. Prends conscience de la valeur de ces jours. Ne laisse pas échapper cette chance. Prie pour que Dieu fasse de toi un flambeau allumé, afin que tu puisses guider une grande multitude à travers ce monde de ténèbres. Chapitre 65. Ô toi, servante élue du céleste royaume, ta lettre m'est bien parvenue. Elle exprimait tes aspirations élevées et tes nobles buts, en mentionnant que tu envisages de partir pour un voyage en Extrême-Orient et que tu te sens prête à endurer les pires difficultés afin de pouvoir guider les âmes et propager jusqu'aux extrémités de la terre les bonnes nouvelles du royaume de Dieu. Chère servante de Dieu, ce dessein que tu as conçu atteste que tu chéris le plus noble de tous les buts. Lorsque tu transmets le message, parle sans détour et dis « Le promis de tous les peuples du monde s'est manifesté, et il s'est fait connaître aux hommes de notre époque. Car tous les peuples sans exception et toutes les religions attendent la venue d'un promis, et Baha'u'llah est celui que tous attendent. Et c'est pour cette raison que la cause de Baha'u'llah entraînera la réalisation de l'unité de l'humanité, que le tabernacle de l'unité sera dressé sur les sommets du monde, et que les bannières de l'universalité de tout le genre humain seront déployées sur les cimes de la terre. Lorsque ta langue se délie pour annoncer cette grande, cette bonne nouvelle, tu trouveras le moyen d'enseigner la foi. Cependant, le voyage que tu projettes doit s'effectuer vers un pays très éloigné, et, à moins qu'un groupe de personnes soit disponible, les bonnes nouvelles ne produiront guère d'effet en ces lieux. Si tu le juges préférable, rends-toi plutôt en Perse, et sur le chemin du retour, visite le Japon et la Chine. Il semble que ce serait là un bien meilleur programme, et beaucoup plus agréable. En tout état de cause, fais ce qui te paraît réalisable, et ta décision sera approuvée. Chapitre 66. Ô toi qui as cherché l'illumination dans la lumière de direction. Rends grâce à Dieu de t'avoir conduit vers la lumière de vérité et de t'avoir invité à entrer dans le royaume d'Abba. Ta vue a été éclairée et ton cœur transformé en un jardin de roses. Je prie pour que ta foi et ton assurance s'affermissent toujours davantage, qu'elles flamboient telle une torche allumée dans les assemblées et qu'elles leur dispensent la lumière de direction. Chaque fois qu'une assemblée illuminée des amis de Dieu est réunie, Abdu'l-Baha est présent en esprit et en âme, bien qu'il soit corporellement absent. Je suis toujours un voyageur en route vers l'Amérique et je m'associe assurément à toute réunion d'amis spirituels et illuminés. La distance est annihilée et elle n'empêche pas deux âmes intimement attachées l'une à l'autre par des liens d'affection, même si elles résident en deux pays différents, de s'associer ensemble en une étroite communion. Donc je suis ton proche compagnon, à l'unisson et en harmonie avec ton âme. Chapitre 67. Ô toi, dame du royaume, la lettre que tu m'as adressée de New York m'est bien parvenue. Le contenu de ton message m'a rempli de joie et de contentement, car il indiquait la pureté d'intention et la fermeté de résolution avec lesquelles tu as décidé de te rendre à Paris afin d'allumer dans cette cité silencieuse le feu de l'amour pour Dieu et de briller telle une torche resplendissante au sein des ténèbres de cette nature. Ce voyage est une entreprise fort louable et opportune. À ton arrivée à Paris, tu dois t'efforcer, quel que soit le petit nombre d'amis résidant dans cette ville, de constituer l'assemblée spirituelle instituée par l'Alliance et de revivifier les âmes par le pouvoir de l'Alliance. Paris est une ville excessivement en proie au découragement et qui connaît actuellement un état de torpeur. Et jusqu'à maintenant, elle ne s'est pas enflammée, bien que la nation française soit de nature active et enjouée. Mais le monde de la matière a complètement recouvert Paris de son pavillon et il a étouffé le sentiment religieux. mais le pouvoir de l'Alliance réchauffera de sa chaleur chaque âme engourdie par le froid. Il dispensera la lumière sur tout ce qui est ténèbres et assurera la véritable liberté du royaume à ceux qui sont captifs entre les mains de la nature. Lève-toi donc aujourd'hui dans la ville de Paris, armée de la puissance du royaume, de la confirmation divine, animée d'un zèle et d'une ardeur sincère et embrasée par la flamme de l'amour de Dieu. Rugis à la manière d'un lion, manifeste un bonheur extatique et une affection au milieu de ces quelques âmes, en sorte que la louange et la glorification de Dieu puissent te parvenir sans cesse du royaume divin et que de puissantes confirmations descendent sur toi. Conserve ta confiance. Si tu agis en conséquence et brandis l'étendard de l'Alliance, Paris s'embrasera. Ne cesse pas de t'attacher à Baha'u'llah et de rechercher ses confirmations, car celle-ci transforme la goutte d'eau en océan et fait du moucheron un aigle. Chapitre 68. Ô vous qui demeurez ferme dans l'Alliance et dans le testament de Baha'u'llah, votre lettre m'est bien parvenue, et vos noms bénis ont été lus l'un après l'autre. Votre lettre exprimait des idées divinement inspirées et témoignait des générosités de Dieu, parce qu'elle évoquait l'union qui règne entre les amis, ainsi que l'harmonie de tous les cœurs. Aujourd'hui, la faveur de Dieu la plus remarquable repose sur l'union et l'harmonie. Cette unité et cette concorde sont ainsi susceptibles d'entraîner la promulgation de l'unité du genre humain et de dégager le monde de ses épaisses ténèbres d'inimitié et de rancœur pour que le soleil de vérité puisse briller totalement de sa parfaite splendeur. À l'heure actuelle, tous les peuples du monde sont absorbés par leurs intérêts égoïstes et déploient les plus grands efforts afin de promouvoir leurs propres intérêts matériels. Ce qu'ils adorent, ce n'est pas la réalité divine, ni le monde de l'humain, c'est eux-mêmes. Ils cherchent assidûment leurs bénéfices personnels et non le bien-être public. Cet état de choses est dû au fait qu'ils sont prisonniers du monde de la nature et qu'ils ignorent les enseignements divins, la munificence du royaume et le soleil de vérité. Mais vous, loué soit Dieu, vous êtes à présent particulièrement comblés par cette munificence. Vous êtes devenus les élus. Vous avez reçu l'instruction divine. Vous avez obtenu votre admission dans le royaume de Dieu. Vous avez commencé d'être les bénéficiaires de bénédictions illimitées. Et enfin, vous avez été baptisés de l'eau de la vie, du feu de l'amour de Dieu et du Saint-Esprit. Luttez donc, cœur et âme, pour devenir des torches enflammées au sein de l'Assemblée du monde, de scintillantes étoiles à l'horizon de la vérité, des sources de propagation de la lumière du royaume, afin de transformer le monde en un divin royaume et ce bas monde en l'univers céleste. Puissent l'amour de Dieu et la miséricorde du Seigneur planter leurs tentes sur les cimes du monde. Les âmes humaines devenir les vagues de l'océan de vérité. Le monde de l'homme croître dans la forme d'un seul arbre béni. Que les versets de l'unité soient chantés et que les mélodies de sainteté parviennent jusqu'à l'Assemblée céleste. Jour et nuit, j'adresse au royaume de Dieu mes supplications, l'implorant de vous accorder son assistance et ses confirmations infinies. Ne vous arrêtez pas à l'examen de vos aptitudes et de vos capacités personnelles, mais fixez plutôt votre regard sur la munificente et parfaite bonté de Dieu, la grâce divine et la puissance du Saint-Esprit, puissance qui transforme la goutte d'eau en océan et l'étoile en soleil. Loué soit Dieu, les armées de l'Assemblée suprême assurent la victoire, et le pouvoir du royaume est prêt à accorder son assistance et son appui. Déliriez-vous votre langue à chaque instant en exprimant des actions de grâce et des paroles de gratitude que vous ne pourriez vous acquitter de vos obligations à l'égard de ces divins bienfaits. Réfléchissez. d'éminents personnages dont la célébrité s'est répandue à travers le monde disparaîtront, avant peu, dans le néant de l'oubli, parce qu'ils auront été privés de cette céleste munificence. Ni leur nom, ni leur renommée ne leur survivront. Et il ne restera d'eux aucune trace, aucun fruit du souvenir. Mais vous, qui avez reçu les splendeurs du soleil de vérité, vous avez atteint la vie éternelle. Vous brillerez et vous étincelerez à jamais de l'horizon de l'existence. Pierre était un pêcheur et Marie-Madeleine une paysanne. Néanmoins, ils furent particulièrement comblés des bénédictions du Christ. L'horizon de leur foi s'illumina et, depuis lors jusqu'à nos jours, ils scintillent à l'horizon de la gloire éternelle. À ce rang-là, le mérite et les capacités n'ont pas à être considérés. Non, ce sont plutôt les resplendissants rayons du soleil de vérité qui ont illuminé ces miroirs dont il faut tenir compte. Vous m'invitez à visiter l'Amérique. Moi aussi, j'ai grande envie d'aller contempler ces lumineux visages, de m'entretenir et de m'associer à ces véritables amis. Mais le pouvoir magnétique capable de m'attirer vers ces rivages, c'est l'union et l'harmonie dont les amis font preuve. Leur comportement et leur conduite conforment aux enseignements divins. Le ferme attachement de tous à l'Alliance et au Testament. Ô divine Providence, cette assemblée est composée de tes amis qui sont attirés par ta beauté et embrasés par le feu de ton amour. Transforme ces âmes en anges célestes. Ressuscite-les par les souffles de ton Esprit Saint. Comble-les d'une parole éloquente et d'un cœur résolu. Dispense-leur le pouvoir céleste et confère-leur des sensibilités promptes à la compassion. Fais qu'ils deviennent les annonciateurs de l'unité du genre humain, afin que le péril des ténèbres d'ignorants préjugés se dissipe à la lumière du soleil de vérité. Que ce triste monde devienne lumineux. Que ce monde matériel absorbe les rayons du monde de l'esprit. Que ces diverses couleurs se fondent en une seule et même couleur. Et que la mélodie de louange s'élève vers le royaume de ta sainteté. En vérité, tu es l'Omnipotent, le Tout-Puissant. Chapitre 69. Tu m'as écrit au sujet de l'organisation Bahá'í. Les enseignements divins, les avertissements et exhortations de Bahá'u'lláh sont clairs et évidents. Ils constituent l'organisation du royaume et leur application est obligatoire. La plus infime déviation à ces principes constitue une erreur absolue. Tu m'as également écrit au sujet de mon voyage en Amérique. Si tu pouvais voir à quel point surgissent les constantes vagues de mes occupations, tu aurais saisi que le temps nécessaire pour entreprendre un tel voyage me fait absolument défaut. Dans les périodes où j'ai une résidence fixe, un répit, même partiel, s'avère impossible. Si telle est la volonté de Dieu, j'ai confiance que grâce à la générosité de Bahá'u'lláh, dès que les moyens conduisant au calme de l'esprit et du cœur me seront accordés, je me déciderai à faire ce voyage et je t'en informerai. Chapitre 70. Ô toi, cierge enflammé, ta lettre m'est bien parvenue et elle m'a procuré un contentement spirituel. Car elle était tout imprégnée de sentiments spirituels. Elle indiquait l'attirance de ton cœur, ton attachement au royaume de Dieu et ton amour pour ses divins enseignements. En vérité, tu fais preuve d'une ardeur très grande, d'intention pure et sanctifiée. Tu ne désires rien si ce n'est le bon plaisir de Dieu. Tu ne recherches rien si ce n'est d'atteindre ses infinies bontés. Et tu t'es engagé dans la promulgation des enseignements divins et dans l'explication de problèmes métaphysiques abstrus. C'est mon espoir que par la grâce de Bahá'u'lláh, vous deveniez, toi et ton épouse respectée, des croyants dont la fermeté et la constance s'affermissent de jour en jour, afin que vous deveniez, dans ce noble pays, deux étendards déployés et deux resplendissantes lumières. Au mois d'octobre, voyagez vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, accompagné de cette lampe de l'amour pour Dieu qui est Mrs. Maxwell. Voilà un projet hautement acceptable. Mon espoir, c'est qu'elle puisse se rétablir tout à fait. Cette servante bien-aimée de Dieu brûle telle une flamme, et jour et nuit, ne pense à rien sinon au service de Dieu. Pour le moment, voyagez à travers les États du Nord, et pendant la saison hivernale, hâtez-vous de vous rendre dans les États du Sud. Votre tâche devrait consister à prononcer des paroles pleines d'éloquence lors de réunions au cours desquelles vous puissiez proclamer les enseignements divins. Si cela vous est possible, entreprenez un voyage vers les îles d'Hawaï. Les événements qui se sont produits ont tous été rapportés il y a 50 ans dans les tablettes de Baha'u'llah, tablettes qui ont été imprimées, publiées et diffusées à travers le monde. Les enseignements de Baha'u'llah sont la lumière de cet âge et l'esprit de ce siècle. Exposez-les en détail un par un lors de chaque réunion. Le premier enseignement est l'investigation de la vérité. Le deuxième, c'est l'union du genre humain. Le troisième, la paix universelle. Le quatrième, la conformité entre la science et la révélation divine. Le cinquième, l'abandon des préjugés de race, de religion, des préjugés qui ont cours dans le monde et dans la politique, préjugés qui tous concourent à la destruction des fondements de l'humanité. Le sixième enseignement est la droiture et la justice. Le septième, l'amélioration des qualités morales ainsi que l'éducation spirituelle. Le huitième, c'est l'égalité entre les deux sexes. Le neuvième, la diffusion de la connaissance et de l'instruction. Le dixième, la solution des problèmes économiques, et ainsi de suite. Luttez pour que les âmes puissent atteindre à la lumière de direction, et tenez ferme le pan de la robe de Baha'u'llah. La lettre que tu as jointe a été lue. Quand l'âme de l'homme se purifie et qu'elle s'affine, des liens de nature spirituelle s'établissent, et de ces attachements naissent des sentiments éprouvés par le cœur. Le cœur humain ressemble à un miroir. Lorsque celui-ci est purifié, les cœurs humains se retrouvent à l'unisson et se réfléchissent les uns les autres. C'est ainsi que se créent des émotions d'ordre spirituel. Il en va de même dans le monde des rêves. Lorsque l'homme est détaché des choses tangibles et fait l'expérience de celles de l'esprit, que de surprenantes lois s'appliquent alors et que de remarquables découvertes sont faites. Et il arrive même que des communications détaillées soient enregistrées. Enfin, j'espère qu'à Chicago, les amis puissent s'unir et illuminer leur cité, car l'aube de la cause s'est levée à Chicago, et c'est pourquoi cette ville possède sur d'autres une certaine faveur. Aussi doit-elle être considérée avec respect. Si Dieu le veut, elle sera peut-être libérée de toute affliction spirituelle, parviendra à une santé parfaite et deviendra un centre de l'Alliance et du Testament. Chapitre 71. Ô toi, bien-aimée servante du Seigneur, j'ai bien reçu ta lettre dans laquelle tu me révèles que les amis, avec une énergie et un dynamisme parfait, participent à la diffusion des enseignements célestes. Cette nouvelle a provoqué une joie et une allégresse intense. À chaque âge, en effet, correspond un esprit particulier. L'esprit de cet âge illuminé réside dans les enseignements de Baha'u'llah. Car ces enseignements jettent les bases de l'unité du monde, de l'humanité, et proclament la fraternité universelle. Ils sont fondés sur l'unité de la science et de la religion, ainsi que sur la recherche de la vérité. Ils défendent le principe selon lequel la religion doit être la cause de l'amitié, de l'union et de l'harmonie entre les hommes. Ils établissent l'égalité des deux sexes et proposent des principes économiques visant à assurer le bonheur individuel. Il propage l'éducation universelle, afin que toute âme puisse, autant que possible, obtenir une portion du savoir. Ils abrogent et annulent les préjugés d'ordre religieux, racial, politique, patriotique, économique et autres. Ces enseignements, qui sont disséminés à travers les épîtres et tablettes, sont pour l'humanité cause de vie et d'illumination. Quiconque les proclame recevra en vérité l'assistance du royaume de Dieu. Le président de la République, le docteur Wilson, est vraiment au service du royaume de Dieu. Car jour et nuit, sans trêve, il lutte pour que les droits de tous les hommes soient sauvegardés, pour que les petites nations, tout autant que les grandes, demeurent dans la paix et le bien-être, sous la protection de la droiture et de la justice. C'est là en vérité un noble but. J'ai confiance que l'incomparable Providence assistera et confirmera de telles âmes en toutes circonstances. Chapitre 72. Ô toi, fidèle ami, lis à l'école de Dieu les leçons de l'Esprit et apprends les vérités les plus intimes de celui qui enseigne l'amour. Cherche les secrets du ciel et relate les grâces et faveurs débordantes de Dieu. Bien que l'acquisition des sciences et des arts soit la suprême gloire de l'humanité, c'est seulement à la condition que la rivière de l'homme se jette dans l'océan et qu'elle puise son inspiration dans l'antique source divine. Lorsque ceci se produit, alors chaque éducateur est un océan sans rivage et chaque élève une abondante fontaine du savoir. Si donc la recherche de la connaissance conduit vers la beauté de celui qui est l'objet de tout savoir, combien excellent est ce but. Sinon, une simple goutte privera peut-être un homme de répandre la grâce, car l'étude engendre l'arrogance et la fierté, d'où résulte l'erreur et l'indifférence envers Dieu. Les sciences d'aujourd'hui sont des ponts vers la réalité, mais si elles ne conduisent pas à la réalité, rien ne reste que de l'illusion stérile. Par le seul vrai Dieu, si l'étude n'est pas un moyen de parvenir à lui, le plus manifeste, elle n'est que perte évidente. Il t'incombe d'acquérir les diverses branches du savoir et de tourner ton visage vers la beauté de la beauté manifeste, afin que tu puisses être un signe de direction salvatrice parmi les peuples du monde et un foyer de compréhension en ce domaine d'où sont exclus les sages et leur sagesse, à l'exception de ceux qui pénètrent dans le royaume des Lumières et ont accès aux mystères cachés, aux secrets bien gardés. Chapitre 73. Ô fille du royaume, ta lettre m'est bien parvenue. Elle montre clairement que tu as dirigé toutes tes pensées vers l'acquisition de la lumière qui émane des royaumes de mystère. Tant que les pensées d'un être humain sont éparpillées, ses efforts demeureront vains. Mais s'il concentre sa réflexion sur un seul et même point, merveilleux seront les fruits récoltés. Il n'est pas possible de capter la lumière solaire dans la plénitude de sa force si elle frappe un miroir plat. Mais, lorsque le soleil brille sur un miroir concave ou sur une lentille convexe, toute sa chaleur se concentre sur un seul et même point qui brûlera au maximum. Ainsi est-il nécessaire de concentrer sa pensée sur un point unique, afin qu'elle devienne une force effective. Tu as exprimé le souhait de célébrer le jour de Ridvan par une fête, et tu voudrais que les amis présents en ce jour récitent des tablettes dans la délectation et la joie. Tu m'as prié de t'adresser une lettre que vous lirez à cette occasion. La voici. Ô vous, mes bien-aimés, et vous, servantes du miséricordieux, voici le jour où s'est levé l'astre de vérité à l'horizon de la vie, où s'est répandue sa gloire et où a lui son éclat avec une telle puissance qu'il a fendu les épais nuages qui s'étaient accumulés et a gravi les cieux du monde dans toute sa splendeur. Aussi, comme vous le voyez, toutes choses créées ont été prises d'une agitation nouvelle. Voyez comment ce jour s'est élargi le champ des sciences et des arts. Quels surprenants progrès techniques ont été réalisés. Jusqu'à quel point se sont accrus les pouvoirs de l'esprit et quelles prodigieuses inventions ont été effectuées. Cet âge équivaut en vérité à une centaine d'autres âges. Si vous rassembliez les réalisations de 100 âges et les compariez aux progrès accumulés durant notre ère, les résultats acquis au cours de celle-ci s'avéreraient supérieurs à ceux de 100 âges du passé. Prenez par exemple le nombre total des livres qui furent écrits dans les âges écoulés, et comparez-le à celui des livres et traités qu'a produit notre ère. Ces livres, écrits en notre temps, dépassent, et de loin, le nombre total de volumes produits au fil des âges. Voyez combien puissante est l'influence exercée par l'astre du jour de ce monde sur l'essence profonde de toute chose créée. Mais hélas, mille fois hélas, les yeux ne le voient pas, les oreilles demeurent sourdes, les cœurs et les esprits sont oublieux de ce suprême bienfait. Efforcez-vous donc de tout votre cœur et de toute votre âme de réveiller les assoupis, de rendre la vue aux aveugles et de faire se lever les morts. Chapitre 74. Ô oiseau dont le doux chant célèbre la beauté d'Abba. En cette nouvelle et merveilleuse dispensation, les voiles de la superstition ont été déchirés et les préjugés des peuples de l'Orient sont condamnés. Certaines nations orientales considéraient la musique comme répréhensible, mais en cet âge nouveau, la lumière manifeste a proclamé dans ses paroles sacrées que la musique, qu'elle soit chantée ou jouée, est pour l'âme et le cœur une nourriture spirituelle. L'art du musicien est un art des plus dignes de louange, car il remue les cœurs de tous les êtres affligés. C'est pourquoi, ô Shahnaz, nota, Shahnaz, le nom attribué au destinataire de cette tablette, désigne aussi un chant musical. Joue et chante donc les saintes paroles de Dieu dans les réunions d'amis, afin que celui qui écoute soit libéré des chaînes du souci et de l'affliction, que son âme bondisse de joie et s'humilie en prière au royaume de gloire. Chapitre 75. Efforcez-vous, cœurs et âmes, de susciter l'union et l'harmonie entre les blancs et les noirs, prouvant ainsi l'unité du monde bahaï, qui exclut les distinctions de couleurs et où seuls sont considérés les cœurs. Dieu soit loué, les cœurs des amis sont unis et liés l'un à l'autre, qu'ils soient de l'Occident ou de l'Orient, du Nord ou du Sud, qu'ils soient allemands, français, japonais, américains, qu'ils appartiennent à la race blanche, noire, rouge, jaune ou brune. Dans la foi bahaï, les diversités de couleurs, de nations et de races n'ont aucune importance. Bien au contraire, l'unité bahaï les dépasse toutes et abolit toutes ces chimères et vaines imaginations. Chapitre 76. Ô toi qui possèdes un cœur illuminé, tu es semblable à la pupille de l'œil, source même de la lumière, car l'amour divin a dardé ses rayons sur ton être intime et tu as tourné ton visage vers le royaume de ton Seigneur. Intense est la haine entre les Noirs et les Blancs d'Amérique, mais j'espère que le pouvoir du royaume les réunira dans l'amitié et deviendra pour eux un baume bienfaisant. Qu'ils ne considèrent pas la couleur d'un homme, mais son cœur. Si le cœur est rempli de lumière, cet homme est proche du soleil de son Seigneur. Sinon, qu'il soit blanc ou noir, cet homme est détaché de son Seigneur. Chapitre 77. Ô toi, servante révérée de Dieu, j'ai bien reçu ta lettre de Los Angeles. Rends grâce à la divine providence de t'avoir assisté et d'avoir fait de toi la propagatrice de l'unité de l'humanité, afin que soit dissipée l'obscurité des discriminations parmi les hommes et que le pavillon de l'unité des nations projette son ombre sur toutes les régions. Sans une telle unité, il est impossible d'atteindre au repos et au bien-être, à la paix et à la réconciliation universelle. Ce siècle illuminé a besoin de cette unité et exige qu'elle soit établie. Dans chaque siècle, un thème central particulier est confirmé par Dieu selon les besoins propres à ce siècle. En cet âge illuminé, le thème confirmé est l'unité de l'humanité. Toute âme qui sert cette unité sera sans nul doute assistée et confirmée. J'espère que dans les assemblées, tu pourras chanter des louanges accompagnées d'une douce mélodie et devenir ainsi pour tous les hommes source de joie et d'allégresse. Chapitre 78. Ô toi dont le cœur est pur, l'esprit sanctifié, la réputation sans égale, le visage rayonnant de beauté. J'ai bien reçu cette photographie qui révèle ta stature éminemment gracieuse et ta lumineuse apparence. Tu as le teint foncé et un brillant caractère. Tu es pareil à la pupille de l'œil qui, bien que de couleur sombre, est source de lumière et révèle le monde contingent. Je ne t'ai pas oublié et ne t'oublierai pas. Je supplie Dieu que dans sa munificence, il fasse de toi le signe de sa générosité parmi les hommes. Qu'il éclaire ton visage de la lumière des bénédictions dispensées par le Seigneur miséricordieux. Qu'il te désigne pour son amour en cet âge distingué entre tous les âges et les siècles passés. chapitre 79. Ô honoré personnage, j'ai lu votre ouvrage intitulé « The Gospel of Wales ». Nota, un article tiré du livre d'Andrew Carnegie, « The Gospel of Wales », a été publié en Angleterre sous ce même titre dans la revue « Pall Mall Budget », voir l'autobiographie d'Andrew Carnegie, page 255. Et j'y ai noté des recommandations réellement saines et appropriées visant à soulager le sort de l'humanité. Pour exposer brièvement le sujet, disons que les enseignements de Baha'u'llah préconisent le partage volontaire, et ceci est bien meilleur que l'égalisation de la richesse, car l'égalisation doit être imposée de l'extérieur, alors que le partage est affaire de libre choix. L'homme atteint la perfection par de bonnes actions qu'il accomplit volontairement, et non par les bonnes actions dont la réalisation lui a été imposée. Le partage est un acte de justice que l'on choisit à titre personnel. Autrement dit, les riches devraient accorder leur assistance aux pauvres, dépenser leur fortune au profit des indigents, mais de leur plein gré, et non parce qu'ils y ont été contraints par la force, car la force ne récolte que le trouble et provoque la ruine de l'ordre social. D'un autre côté, le partage volontaire, la dépense, librement consentie, de sa propre richesse, contribue au bien-être et à la paix sociale, éclaire le monde et prodigue l'honneur à l'humanité. J'ai pu constater les heureux effets de votre philanthropie en Amérique, dans plusieurs universités, au sein de rassemblements dédiés à la paix et d'associations pour la promotion de l'éducation, alors que je me rendais de ville en ville. C'est pourquoi je prie en votre nom, afin que les générosités et les bénédictions célestes vous soutiennent toujours, et que, à l'est comme à l'ouest, vous accomplissiez de nombreuses actions philanthropiques. Puissiez-vous ainsi briller tel un cierge dans le royaume de Dieu, parvenir à l'honneur et à la vie éternelle, et resplendir, telle une brillante étoile, à l'horizon de l'éternité.